Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Le patrimoine architectural algérois et la mémoire coloniale, comment les étudier au mieux sur le terrain. Ainsi, vous voyez une volée de marches, trois portes monumentales, une mosaïque bleue, des balcons le long de trois façades. Vous êtes sur le boulevard La Ferrière à Alger, jadis, naguère, ou aujourd'hui, devant la Grande Poste, un signal architectural, un lieu de rendez-vous habituel. Comment construire une ville européenne aux côtés d'une ville musulmane et qui étaient les deux architectes de cette Grande Poste? Réponse bientôt au cours de la balade, lecture de façade ou plus tard dans le débat, grâce à la rediffusion d'une nouvelle fabrique de l'histoire proposée pour la première fois le 21 avril 2003 lors d'une semaine consacrée à l'Algérie. 2003, c'était l'année de l'Algérie.
La fabrique de l'histoire consacrée à la question du patrimoine architectural algérois et à la façon dont il a été conservé après 1962, après l'indépendance algérienne. Alors évidemment, quand on se trouve ici même, boulevard La Ferrière, anciennement boulevard La Ferrière, donc un endroit central de l'Alger colonial, on ne peut pas imaginer autrement la façon dont la ville européenne s'est construite, légèrement à l'écart de la casbah originelle, donc puisque nous sommes un tout petit peu en dehors de cette casbah et en donnant sur la mer. Nous avons juste en face de nous, donc derrière les palmiers, le port d'Alger, et puis derrière nous, cet immense boulevard La Ferrière qui s'étale en montant le long de la colline avec un ancien monument aux morts français qui a été retravaillé pour en faire un monument aux morts algérien, et en haut un grand hôtel construit après l'indépendance. Alors, si nous avons choisi de nous trouver ici pour cette émission consacrée à la façon dont a perduré le patrimoine architectural algérois, c'était parce que nous sommes juste en face de la Grande Poste avec deux personnes. Tsouria Kassab, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes architecte, enseignante à l'école d'architecture d'Alger, on appelle ça l'EPO généralement, l'école polytechnique d'architecture et d'urbanisme d'Alger. Et nous avons la chance que vous travailliez régulièrement avec, dans le cadre d'un programme bilatéral franco-algérien avec l'université de Bordeaux, et vous avez à côté de vous, c'est un hasard, elle est là cette semaine, donc Sylviane Leprin, professeure à Bordeaux et architecte, et vous travaillez donc dans un programme bilatéral entre Alger et Bordeaux, donc sur les visions contemporaines du patrimoine architectural algérois. Alors c'est avec vous que nous allons faire cette ouverture d'émission, cette balade ici même, donc devant la Grande Poste, à partir de ce bâtiment de la Grande Poste, avant de rejoindre tout à l'heure les studios de la Radio Nationale Algérienne, dans lesquels se trouveront des historiens, des sociologues et des architectes, des historiens de l'architecture, donc pour évoquer justement la façon dont va se perdurer cette architecture coloniale, en particulier après 1962. Alors, peut-être que vous pouvez nous dire tout de suite, Tsouria Kassab, pourquoi cette Grande Poste est si importante et pourquoi cette partie de la ville même que nous avons en face de nous, autour de nous, donc rappelons-le, une partie blanche et bleue, et pour ceux qui ne connaissent pas Alger, une partie qui est effectivement dans un style éclectique qui rappelle tout de même beaucoup le style haussmannien ou post-haussmannien. Pourquoi c'était important de se trouver devant ce bâtiment de la Grande Poste?
Alors, la Grande Poste a déjà été construite au début du XXe siècle, donc c'était sous le gouvernorat Chonard. Donc, ce gouverneur qui avait un petit peu changé, qui voulait changer les traditions et les manières de voir antérieures. Comme vous savez, auparavant, donc les Français étaient venus avec en voulant civiliser la population, donc en exportant leur architecture éclectique, néoclassique. Mais en fait, bon, peut-être qu'on s'est rendu compte qu'il y avait certaines traditions, certaines cultures locales et donc qui avait été défendue par Jonard et puis par la suite par Guillauchin. Et donc là, justement, sous ce gouvernorat, donc on a un certain nombre d'édifices, comme la Grande Poste que nous avons en face, nous avons la Wilaya, qui est aussi un très bel édifice, la Dépêche, bon, il y en a plusieurs. Et en fait, la spécificité de cette architecture, c'est une architecture qu'on peut qualifier actuellement de néo-mauresque, c'est-à-dire qui reprend quelques éléments, justement, d'architecture d'Arabie-Byzance. Hein, donc, là en face, on le voit bien, donc on a ce qui est par contre différent par rapport à l'architecture musulmane, c'est un peu la dimension.
Oui, hein. C'est-à-dire que, d'ailleurs, ils ont été critiqués, ceux qui ont défendu autour du gouverneur Jonard, donc cette architecture néo-mauresque, ils ont été critiqués parce qu'on a dit, tout compte fait, certes, il y a les types de l'architecture mauresque, mais dans des bâtiments qui sont bien plus grands, bien plus imposants, et qui sont, eux, de facture européenne, pourrait-on dire. Ça ne colle pas, ça ne va pas, c'est du pastiche d'une certaine façon.
Oui, bon, du pastiche, mais disons que la dimension de la ville était autre que celle qui existait auparavant, hein, la Casbah. C'est-à-dire que là, déjà, la ville s'était bien étendue vers l'est, parce que là, justement, la Grande Poste, on est juste au niveau des remparts français. Hein, donc là, on est juste au niveau des remparts français. Et comme il y a eu, disons que cette politique voulait qu'à chaque, peut-être au niveau de chaque rempart, on édifie quelque chose de spécial. Hein. Les premiers remparts datant de l'époque ottomane, qui étaient également remparts au début françaises, enfin qui ont été reprises, c'était le TNA, c'est-à-dire le Théâtre National, avec la place ex-Bresson, donc actuellement Square Port Saïd. Et là, donc, c'est aussi ponctué par cet édifice Grande Poste qui actuellement est le repère d'Alger.
Hein. Et pourquoi le repère ? Parce que c'est l'endroit où on donne rendez-vous.
Oui, par son architecture, par son emplacement également.
C'est un signal.
Oui, c'est un signal. Hein. Quand vous donnez rendez-vous, en général, c'est la Grande Poste.
Alors, Sylviane Leprin, vous avez travaillé sur l'exportation de l'architecture européenne. Alors, on va peut-être revenir un peu plus longuement sur ce qu'il y a eu juste avant cette période très particulière du début du XXe siècle, donc autour du gouverneur Jonard et de la volonté de faire des édifices de style néo-mauresque, c'est-à-dire sur la construction d'une ville européenne à côté de la ville ottomane. C'est donc toute cette période qui court de 1830, l'année de la conquête de l'Algérie, jusqu'aux abords de 1900, et où là on voit les grandes avenues, on voit les immeubles haussmanniens et toute la période très riche et très forte du Second Empire en particulier.
Oui, alors il y a un aspect sur lequel j'aimerais tout de suite intervenir, c'est sur la construction de ces images précisément en Europe et en France en particulier dans les expositions universelles et coloniales. Parce que en fait, les prémices de ce style ont existé précisément dans les reconstitutions qui avaient lieu dans les expositions universelles. Et si on comprend, si on veut penser l'architecture exportée, elle doit se penser à la fois en France notamment, en Europe et aussi, en Angleterre par exemple, pour ensuite venir précisément s'explorer et s'ancrer et se fonder notamment en Algérie.
Donc d'une certaine une réinvention européenne d'une architecture
locale réimplantée plus tard en fait à partir des expositions universelles dès 1867 dans des modèles qui sont beaucoup plus archéologisés et théâtralisés, festifs et qui ont permis précisément en Europe d'aller à la rencontre de ces pays dits exotiques. Et ensuite, il y a une construction idéologique différente, architecturale, qui passe notamment par l'École des Beaux-Arts et l'Académie, et qui permet ensuite d'instaurer ce style avec la majesté que nous avons précisément à l'intérieur de la ville d'Alger.
Alors donc, parce que là, on tient nos auditeurs en haleine depuis quelques temps, elle est comment cette Grande Poste ? Est-ce que vous pouvez nous la décrire, Souria Kassab ? Donc des arcs, d'abord une volée de marche qui monte depuis la rue des colonnes, trois portes de même dimension, des arcs outrepassés, et puis au-dessus une mosaïque bleue avec des caractères dorés, et au-dessus encore donc des petits balcons avec des colonnes jumelées qui courent tout au long de la façade, trois façades en fait, parce que c'est un immeuble qui se trouve au coin du boulevard Laferrière et d'une autre rue, avant de rejoindre le toit et donc deux petits dômes qui surmontent les deux angles de ces trois façades.
Oui, là, donc le bâtiment, justement, il est juste. C'est à partir du bâtiment que l'ex-rue d'Isli démarre, donc actuellement rue El Arbi Bamendi. Et là, comme on l'avait dit tout à l'heure, les dimensions sont tout autres. Donc, comme ces arcades d'entrée sont là sur ce qu'on peut appeler actuellement trois niveaux, donc sur 15 mètres à peu près. Et avec donc des décorations très arabisantes, c'est-à-dire en reprenant par exemple pour quand on voit les rampes au-dessus, elles rappellent beaucoup les Moucharabia, des stucs au-dessus des arcades, donc peints parfois en doré, donc la couleur dorée qui revient et qu'on retrouvait beaucoup dans les palais.
On a aussi du vert d'eau un peu.
Du vert d'eau, oui.
Ce fameux vert que l'on retrouve dans beaucoup de céramiques ou beaucoup de faïences ici.
Disons qu'on peut quand même penser un peu cette bande supérieure comme un couronnement qui était un petit peu un des principes classiques de l'architecture classique où on retrouvait donc le soubassement, la fameuse tripartie. Donc on peut se dire qu'à la limite, parce que dans l'architecture musulmane, bon, on n'a pas cette différence en général.
Et donc c'est bien. Donc
c'est un mélange. Tout à fait.
Oui, oui.
C'est un mélange. Là, il y a même les bow windows qui reviennent de part et d'autre, qui sont donc ponctués par des coupoles aux extrémités.
Donc on va peut-être s'acheminer vers ce bâtiment tranquillement, en s'en rapprochant pour le décrire de près. Alors, montons donc les quelques marches de cette grande poste là, où nous nous trouvons. C'est vrai que c'est une entrée monumentale sur le façade et Sylvain de Prince, avec une décoration donc de stalactites, de stucs, de décors donc avec une écriture arabe. Mais cette écriture arabe, tout compte fait, sur les façades, n'a pas une grande importance aux yeux des architectes, puisqu'il s'agit d'une façon de composer une architecture à partir d'éléments qu'on va chercher un peu partout dans le monde musulman et qu'on rassemble ici dans un grand bâtiment français de l'époque.
Tout à fait. Justement, donc là, c'est réellement uniquement la décoration, c'est-à-dire il n'y avait aucun discours philosophique derrière ça. Puisque c'était ce type de décor qu'on retrouvait dans les anciens palais. Donc l'arabisance a été utilisée telle qu'elle se faisait à cette époque-là. Et on retrouve même les stalactites. Donc ce qui est un petit peu particulier, c'est que si on voit un petit peu l'architecture de ottomane à Alger, on ne retrouve pas tous ces éléments-là. Et ça se comprend parce que je disais tout à l'heure, par ces fameuses missions qui étaient faites, donc comme celle d'Edmond Dutoit, qui a beaucoup travaillé à Tlemcen, et donc à travers ces différents croquis qu'il faisait à cette époque-là, donc a rapporté
un vocabulaire
qui a été repris. Donc c'est un vocabulaire de la région de Tlemcen où il y avait les Mérinides, donc à travers les mosquées et tout ça. Et là, on le retrouve là, juste à l'entrée, donc encadrant un petit peu la porte là.
Alors, une sorte d'alphabet, Sylviane Leprin, dont ceux qui l'utilisaient ne savaient pas exactement ce qu'il signifiait au point de vue réel, mais qui l'utilisaient comme une sorte d'alphabet, comme dit le duc avait utilisé l'alphabet médiéval pour pouvoir refaire des bâtiments du Moyen-Âge.
Oui, et comme les architectes arabisants qui décoraient des fumoirs à Paris pouvaient les reprendre pour précisément faire des décors spécifiques à la mode orientale. Donc finalement... Là, il y a toujours ce même problème de composition, extrêmement agréable à l'œil, qui crée une unité, qui fonctionne très très bien avec l'architecture, qui la tempère, qui tempère les volumes qui sont quand même assez massifs et qui amène une respiration, mais en même temps, qui sont d'abord du décor.
Alors donc, du bois, du stuc, du marbre, et à l'intérieur, évidemment, un univers légèrement différent dans lequel la Grande Poste fonctionne encore aujourd'hui sur les façades. Donc nous entrons, nous avons ici évidemment des faïences magnifiques, vert d'eau, des bleus très, très profonds et très, très denses, et puis donc une magnifique coupole
autour de laquelle s'agencent les bureaux de poste qui n'ont pas bougé, j'imagine, depuis le début du siècle. Tout ça peut ressembler au bureau de poste tel qu'il existe encore à Paris, par exemple, à la Poste du Louvre, donc du bois très sombre. Là, on est vraiment dans ce début de siècle architectural aux alentours de 1900-1910. Et puis, donc, cet espace très impressionnant quand même. C'est une sorte de cathédrale des postes, on pourrait dire.
Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, ils ont même pensé à un moment donné à un petit peu lui changer de fonction et en faire un musée. Bon, mais ça ne s'est pas fait, mais vous voyez bien, sa beauté est telle que justement elle peut accueillir ce type de fonction. Et là, donc, je rajoute par rapport, là, mis à part donc, la décoration dont on a parlé, ce lustre là au centre qui est le modèle de lustre qu'on retrouve dans les mosquées. Donc notamment, par exemple, les mosquées de Tlemcen. Donc c'est réellement dans le même modèle là, avec plusieurs cercles qui vont en étage.
Et donc et à l'intérieur des petites coupelles de verre transparentes, translucides plus ou moins, et puis des pendeloques en cristal qui soutiennent donc. J'imagine au départ dans les mosquées peut-être plutôt des bougies. Mais
c'était
ici,
des bougies, tout à fait. Ici, là, peut-être. Au départ, donc ces lustres sont très anciens. Enfin, et même la structure à l'époque était en cuivre, donc on accrochait ces différents petits ces petites coupes qui soutenaient les bougies qui sont remplacées actuellement, bien sûr, par des lampes. Et vous voyez que même autour, donc à l'échelle de chacune des coupoles, puisque là la grande coupole est entourée de plusieurs petites autres coupoles, donc en second cercle, là vous avez des lustres à la dimension de chacune du même style, mais à la dimension de chacune des coupoles.
Décoration, Sylvain Leprin, très riche, très, très chargée en même temps. Il n'y a pas un centimètre carré de vide, pourrait-on dire, mais en même temps très sobre, puisque nous n'avons que des couleurs qui sont dans les beiges, les marrons pour les comptoirs et le bois, et une sorte de liseré doré qui surmonte les chapiteaux des colonnes qui tiennent la coupole.
Oui, c'est vrai, il y a une unité très forte dans la couleur, avec à la limite quelques gris colorés, mais que la dominante est plutôt dans des beiges avec des tons très rabattus, très subtils. Effectivement, il faut aller chercher le décor, il faut aller chercher le détail à l'intérieur de cette unité colorée. C'est peut-être ça la force aussi de ce lieu qui n'est pas redondant.
Alors, on n'a pas rendu hommage, on n'a même pas dit leur nom, ces deux architectes, Voineau et Tondoir, je crois, c'est ça. C'était les deux architectes de la Grande Poste, alors que, par ailleurs, l'architecte phare de cette architecture néo-mauresque à Alger, c'est Petit, qui construit la Médersin, le siège de la Dépêche, la Préfecture, la Nouvelle Galerie. En tout cas, ces architectes, ils ont eu une durée de temps relativement limitée, puisque on assiste à une algarade ici. Non, c'est même pas une algarade, d'ailleurs. C'était plutôt une interjection sympathique entre les personnes qui sont à l'intérieur de cette grande poste. Donc, en fait, cette durée de cette architecture néo-mauresque a été relativement courte, puisqu'on peut dater de 1900, au début des années 1900, les premiers grands bâtiments publics, et puis la Première Guerre mondiale met un terme.
Oui.
31
jusqu'à
31
Oui, autour de 31. Mis à part les grands édifices, donc là qu'on a pu voir, il y a quand même ce type d'architecture qu'on retrouve même au niveau de l'habitat.
Oui, c'est-à-dire qu'elle a essaimé cette architecture dans des architectures privées particulières créées par des Français d'Algérie.
Oui, aussi bien au niveau de villas. D'ailleurs, il y a un très bon. Il y a un ouvrage de Monsieur Deluz qui en parle très bien par rapport à ces villas où c'était carrément les pastiches des anciennes villas du Fars. Mais on a sur les hauteurs un petit peu, nous avons un certain nombre d'immeubles vraiment arabisants, donc néo-mauresques, très beaux, et donc datant d'un peu plus tard que donc ces grands édifices. C'est-à-dire que quand même il y a eu un impact, le fait d'avoir construit ces grands édifices publics, il y a eu un impact sur l'architecture, un petit peu plus privée.
Bien, nous allons ressortir, merci donc Tsouriye Kassab et Sylviane Leprin de ces explications sur la Grande Poste. Nous en ressortons et nous rejoignons bientôt le studio de la radio algérienne. Nous allons tenir un débat donc sur la permanence et la façon dont on peut réutiliser une architecture hautement symbolique et utilisé, donc, et créé par un colonisateur lorsqu'on devient indépendant. C'est le thème de la Fabrique de l'Histoire aujourd'hui même. Laboratoire de la Fabrique de l'Histoire. Un laboratoire donc déplacé en d'autres lieux, puisque nous avons enregistré cette émission vendredi dernier, et j'en remercie d'ailleurs tous les participants, puisque vendredi est un jour férié, c'est l'équivalent de notre dimanche, donc vendredi dernier, ici même, à la Radio Nationale Algérienne, dans les studios de la Radio Nationale Algérienne. Merci donc d'être venu ici pour ce laboratoire de la Fabrique de l'Histoire, consacré donc à cette histoire de l'architecture et de l'urbanisme à Alger, et à la façon dont les symboles et ce qui avait été construit au début du siècle en particulier, mais pendant toute la période de la colonisation, a survécu donc au départ des colonisateurs et a été réutilisé par les Algérois eux-mêmes. Alors nous avons ici même Tsouria Kassab, rebonjour pourrait-on dire, architecte enseignante à l'EPO, Sylviane Leprin, professeure à Bordeaux et donc architecte que nous avons entendu tout à l'heure, et puis également Madame Chérifa Hadjidj, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue à l'Université d'Alger, sociologue urbaine, vous aimez vous appeler comme cela et c'est tout à fait justifié, ainsi que Larbi Chebouden, bonjour. Bonjour. Également sociologue urbain, professeur de sociologie à l'Université d'Alger Centre. Youssef Kanoun, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien de l'architecture, architecte, enseignant à l'EPO, et puis Kassim Arour, pour terminer, bonjour, architecte et urbaniste. Alors, il se trouve que lorsque nous avons décidé de faire cette émission, il y a quelque temps, je ne savais pas que vous aviez tous participé de concert à une rencontre qui a eu lieu l'année dernière, autour plus ou moins du thème dont on va débattre aujourd'hui, une grande rencontre dont les actes devraient être publiés dans quelques mois. Maintenant, un grand colloque organisé donc à l'École polytechnique d'architecture et d'urbanisme, qui traitait justement de ces strates successives qui avaient construit la ville d'Alger. Alors, peut-être avant que de commencer, quelques réflexions sur ce que nous avons dit, quelques précisions sur ce qui a été dit dans ce reportage, cette lecture de façade de la Grande Poste. Youssef Kanoun, vous vouliez intervenir ? Parce qu'on a dit, enfin c'est moi qui l'ai dit d'ailleurs, que cette architecture de la Grande Poste était due à deux architectes, en fait, ça ne serait pas exactement ça ?
Oui, l'histoire est un peu plus complexe, parce que la Grande Poste, ce qu'il faudra signaler, c'est que les plans ont été faits le 28 août 1906 par Voineau, mais l'autorisation de construire n'a été délivrée que 4 ans plus tard.
Oui, puisqu'on la date généralement dans l'histoire de l'architecture de 1910.
De 1910. Ça veut dire que ces 4 ans-là reflètent quelque chose. Ça veut dire que la Grande Poste ne s'est pas faite facilement. Le début de la construction ne s'est pas fait facilement. Cela signifie pour moi qu'il y a eu débat autour de cette architecture au niveau des pouvoirs publics français.
On en a la trace archivistique
ah,
de
oui,
ce
oui,
débat
absolument. Donc, il y a au niveau des archives du Conseil populaire, de l'ex-Conseil populaire de la ville d'Alger, qui sont des archives de la ville d'Alger actuellement, des traces de ce débat-là. Alors, mais la Grande Poste, donc, déjà sur les architectes qui ont construit cette Grande Poste, donc il s'agit de Voineau d'une manière très très précise, mais le nom de Tondoire est revenu plusieurs fois dans les écrits, mais en fait, moi, je n'ai pas trouvé de traces précises de Tondoire. Alors, il s'agit probablement de Tondour, mais là aussi, il y a certains qui disent que cet architecte n'a pas existé. Mais encore, le deuxième architecte qui aurait construit la Grande Poste serait, pour moi, d'après les écritures et les signatures des plans dressés par cet architecte qui était architecte du gouvernement général français, ça serait Tavani ou Tavoy. Alors, la question qui m'intéresse, est-ce que l'initiative de construire une architecture, entre guillemets, néo-mauresque, moi c'est un terme que je ne mets pas, je n'aime pas, mais c'est une architecture algérianiste, parce qu'il va y avoir un certain nombre d'architectes qui vont s'inspirer de cela, est-ce que ça vient des pouvoirs politiques français sous l'impulsion, comme on le dit, du comité des vieilles Alger, qui était présidé par Klein, qui comptait parmi lui des artistes, des intellectuels
des beaucoup,
etc.,
ouais.
qui ont fait pression sur le pouvoir politique pour la récupération du patrimoine, ou bien est-ce que cette tradition nous vient des Anglais ? Est-ce que les Français eux-mêmes ont hérité de cette tradition des Anglais qui ont été, qu'on appelle les hiverneurs, qui ont été les premiers
Oui, alors
à venir.
Donc rappelons, les hiverneurs, ce sont les gens qui viennent ici pour profiter du climat, beau temps, du climat. Lorsque, évidemment, le froid a rempli la ville de Londres et puis en particulier toute la Grande-Bretagne.
En dehors de toutes ces considérations,
Kassim Arour,
j'aimerais bien quand même insister sur un fait. C'est que il est vrai que le bâtiment est de type néo-mauresque, mais c'est le résultat de toute une réflexion qui, en fait, c'est l'aboutissement d'une réflexion sur la façon dont cette architecture est née. C'est-à-dire qu'au départ, on pensait pastiche, parce qu'il faut oublier que les premières interventions, c'était en 1886 sur la mosquée El Kachawa. Qui a duré pendant une dizaine d'années. On n'a pas réussi à finaliser. Et finalement, la finalisation, c'est faite avec des références extra-algériennes. Mais la Grande Poste a une,
vous voulez
une
dire
force.
Que c'est une réflexion qui commence donc aux environs 1880-90
à cause des expositions universelles.
Ouais.
Et ensuite, au fur et à mesure
qui prend sa maturité.
La réflexion. Oui, c'est ça. La Grande Poste, c'est la fin d'un discours. Et on a devant nous maintenant un bâtiment qui est un édifice urbain d'une très grande complexité et qui joue son rôle dans la ville, tel que l'a souligné M. Canon. Il a d'abord, par ses façades justement, puisque vous avez fait une lecture de façades, il a des façades qui répondent à leur situation. Vous avez l'entrée monumentale qui reprend, si vous voulez, il ne faut pas oublier que c'était la porte des remparts. Lorsqu'on a creusé ces dernières années devant la Grande Poste, on a retrouvé la fameuse grande porte qui ornait les remparts à cet endroit-là, c'est-à-dire qui terminait la rue d'Alger, qui était ex-rue d'Isly. Donc on a un bâtiment qui a une très grande qualité urbaine.
Et une qualité urbaine et une puissance symbolique.
Une puissance symbolique,
évidente.
Et c'est là on arrive à avoir la fin du mouvement néo-mauresque, c'est-à-dire que c'est l'architecte qui dessine, qui construit le projet d'architecture, mais ce sont les artisans qui le réalisent avec leur vocabulaire, avec leur tradition, etc. et tout. Et l'architecte utilise cela parce que maintenant l'architecte, c'est un architecte qui a fait les beaux-arts, qui a sa méthode de projection et qui utilise le vocabulaire architectural local.
Cheikh Adjidj.
Je voulais intervenir surtout sur la centralité. Bon, les architectes sont là pour parler de ce qu'ils savent. Moi, plutôt comme bâtiment de centralité. Et Rasseh Mahlol vient de dire, c'est là où finit en quelque sorte l'ancienne ville, commence une nouvelle, la centralité de la nouvelle ville. Et c'est un élément central. Et effectivement, quand on a parlé un peu de transformer sa fonction, ça a posé des problèmes parce que c'est un vrai repère pour la ville, même aujourd'hui.
Oui, Larbier Chebouden, bonjour.
Allez-y. Bonjour à vous. Bien, on vient d'avoir quand même une preuve, quoique de façon trop lapidaire, à propos de la fabrique de l'histoire. Donc, cette fabrique, elle fabrique la ville elle-même qui fabrique l'histoire.
Ah oui.
Elle fabrique sa propre histoire. Alors, j'allais dire, intervenir un peu rapidement sur cette question qui a soulevé des dimensions d'architecture, il faut quand même rappeler que le centre d'Alger, le centre futur d'Alger, ce sera effectivement la grande poste après avoir été le quartier de la Marine.
Oui.
Quelque un chose quartier de très important qui a joué un rôle de centre-ville, un rôle où les fonctions urbaines de type culturel, scientifique, militaire, etc. au 19e siècle avaient élu le fameux quartier de la Marine. Ce n'est que plus tard, lorsque les coloniaux et les colons s'enrichiront, qu'ils décideront effectivement de produire d'autres choses, de faire de l'étalement, et parfois de faire même de l'haussmannien avant l'heure pour certains immeubles d'Alger, jusqu'à la rue Vès, etc., pour qu'ensuite on aboutisse à la grande poste. Ce qui est important, c'est de montrer qu'effectivement, ce quartier de la grande poste est un quartier devenu centre de la ville. Il y a eu de nos jours une sorte de projet concurrent à ce quartier. Et même après la réalisation de ce projet, malheureusement, la concurrence ne fait pas, ne tient pas. Je tiens juste à ajouter un petit quelque chose. C'est qu'il se trouve que depuis tout à l'heure, j'étais en train de penser au boulevard La Ferrière.
Et oui.
Actuellement, c'est le boulevard Rimistri. Le boulevard La Ferrière, c'est effectivement le quartier de la Grande Poste. Il y a quelqu'un qui, dans les années 30-40, il a écrit Le Maghreb entre deux guerres, c'est Jacques Berck. Lorsqu'il parle des pays nord-africains, il parle bien longtemps, c'était le Maghreb entre deux guerres, donc c'est les pays nord-africains. Il parle du Maroc, il parle de la Médina de Fès, il parle de Tunis, il parle du Bardo à Tunis. Et quand il parle d'Alger, il parle du boulevard La Ferrière. Et pour lequel il loue toutes les grandes qualités des bâtisses qui s'y trouvent et qu'il qualifie à l'époque, la haute valeur urbaine se trouve à Alger Centre. Voilà, je voulais juste...
Oui, vous avez raison. Youssef Kanoun.
Alors, je me focaliserai sur ce bâtiment de la Grande Poste. Ensuite, on pourra discuter de cette centralité. Ce qui est bizarre, c'est que ce qu'a dessiné Voineau, ce n'est pas la réalité. En fait, le projet a été transformé. Les projets originaux de Voineau sont plus petits que cela, sont moins ambitieux que cela. Ça veut dire qu'après, sur les 4 ans, certainement, du dessin jusqu'en 1910, le projet tel que moi, je possède ses archives, est un bâtiment extrêmement bas, avec beaucoup plus de décoration qui s'apparente à la décoration du Maghreb extrême, Maroc. Donc c'est ce type de décoration qui est venu. On sait que là-bas il y a aussi Lyoté qui a été une locomotive extrêmement extrêmement forte. Comme bâtiment de ce type-là, et là je crois qu'il faut revenir un peu à cette histoire. Ça veut dire que ce type de bâtiment ne nous est pas complètement étranger, parce qu'en fait les Anglais, quand ils ont commencé à s'inspirer, de toutes ces maisons farces qui existent aux alentours d'Alger, qui sont à Mustapha supérieure. Les Anglais vont s'installer là-bas. C'est là la partie de la ville qui les séduit, parce qu'il y a une vue sur
en hauteur, avec une vue très, très large sur la baie d'Alger.
C'est là où nous sommes actuellement. C'est ce deuxième balcon d'Alger qui est à la côte 100 à peu près, où on a une vue tout à fait imprenable sur Alger. Et ils vont avoir leur terrain de golf à Alger, donc c'est pour ça qu'on appelle le golf d'ailleurs. Et ce n'est que comme ça que les Français ont été initiés à cette ère de l'architecture locale, et ils ont été poussés par ce comité du VLG à faire. Donc le premier bâtiment, c'est le musée des Antiquités, anciennement musée Stéphane Xell. Et ensuite, on va avoir d'autres édifices. Après 1910, il va y avoir d'autres édifices. Non seulement, donc, il va y avoir toute une dynastie de bâtisseurs qui sont les Vidal, Barthélemy Vidal, qui va être un maçon.
Commence comme maçon, puis ensuite toute sa famille va continuer dans ce travail architectural, justement.
Voilà, devient. Et ensuite, ils vont presque imposer une architecture locale pour les édifices publics. Ça veut dire, à Albière, il va y avoir des arrêtés municipaux qui vont demander aux gens de construire.
De faire la même chose.
De faire la même chose.
Ah, oui.
Ce qui explique à Albière.
Comment on impose une norme, d'une certaine façon.
Comment on impose une norme. Et ce qui explique à Albière, il va y avoir ce type d'architecture. À Hydra aussi, il va y avoir ce type d'architecture.
Madame Kassam.
Alors moi, je voulais revenir au comité d'Alger, donc qui a été créé, du vieil Alger, donc qui a été créé en 1900. Et pourquoi il a été créé? Disons, il n'y a jamais rien qui crée comme ça, qui se crée de lui-même. Ça s'inscrivait dans une logique internationale. Donc cette logique où, justement, par rapport au patrimoine en général, donc il y avait une nouvelle manière de le voir, c'est-à-dire que si auparavant on considérait comme patrimoine tout ce qui était gréco-romain, et donc à partir de ces années-là, et donc avec il y a eu beaucoup d'Anglais qui avaient travaillé, dont Ruskin et tout ce qui s'ensuit, donc il y avait une nouvelle vision, et on s'était dit qu'il n'y avait pas que ce type de patrimoine, et on redécouvrait tout le patrimoine qu'on appelait oriental. Donc rien ne se fait sans raison, et là ça correspond.
Donc c'est un
à
mouvement
cette
intellectuel qui accompagne un mouvement politique, parce qu'il y a aussi une volonté politique.
Parce que ça tombait, en plus, comme on le disait un petit peu tout à l'heure, il y a eu quand même 70 ans de présence coloniale, il y avait les petits conflits, peut-être que ça a arrangé quelque peu aussi, bien que tout le monde n'était pas d'accord, puisque Jonard était qualifié d'indigénophile. Donc ça, c'était un petit peu pour la petite histoire.
Cassimaro, s'il vient de le prendre.
Dans le même sens, il ne faut pas oublier que c'est vrai qu'au départ, il y avait une envie de pastiche, etc., parce qu'il fallait je ne trouve pas le terme, mais c'est Marseille, il faut pas oublier Marseille quand même, qui lui a vraiment commencé à travailler sur la question, sur la région de Tlemcen, qui a fait un inventaire de toutes les décorations, et ensuite il est passé au niveau des constructions, des types de constructions. Au départ, il y avait une problématique formelle, ensuite c'est devenu une problématique de fond. C'est-à-dire que les architectes, justement, qui sont venus après, en particulier Guillauchin, a commencé à travailler vraiment en tant qu'architecte, c'est-à-dire qu'il reprenait en charge l'architecture algéroise, et bon, vers la fin, mais après avoir eu la leçon de Marseille sur l'architecture tlemcénienne. Et quelle architecture tlemcénienne a son influence, évidemment, il y a beaucoup de ressemblances avec l'architecture marocaine. Donc, c'est à la fin, lorsqu'il y a un discours qui a été construit, qu'au niveau d'Alger, on a repris l'architecture algéroise comme référent pour construire un certain nombre de bâtiments.
Sylviane Leprin.
Je voulais peut-être intervenir sur un point précis qui concerne, en fait, la question du paysage urbain. On n'en a pas parlé. Il me semble que la qualité plastique de la ville aussi est un élément fondamental pour comprendre cette architecture. Et là, peut-être que tout ce pan orientaliste qui a effectivement aussi créé des relations très fortes, notamment entre la France et puis l'Algérie et puis le Maghreb, bien évidemment dans sa globalité, permet aussi de réinterroger en même temps peut-être des moments très forts ou des projets peut-être moins forts. Je pense en particulier au projet de Boukhalfa qui avait été fait par Dollfuss, où il y a eu les premières maisons ouvrières de type arabisant. Il y a beaucoup de spécialistes connaissent ce projet qui a disparu, mais dans la mémoire est resté aussi comme un modèle tout à fait essentiel et premier, finalement, de l'habitat ouvrier, aussi pour comprendre la qualité architecturale et comment s'inspirer d'une qualité architecturale et plastique qu'on pouvait ensuite réintroduire, pourquoi pas, dans la ville.
Ce que vous voulez dire, c'est que d'un seul coup, on semble, enfin, en particulier les architectes issus de l'école architecturale européenne, semblent s'ouvrir à ce moment-là à quelque chose d'autre, alors que jusqu'à maintenant, ils avaient simplement plaqué sur la ville peut-être des concepts ou des idées qui étaient les leurs et qu'ils auraient pu appliquer à Montpellier, à Lyon ou oui. dans n'importe quelle autre ville d'Europe.
Ce que j'aurais envie de dire pour nuancer, tout en étant d'accord avec tous les spécialistes qui sont autour de cette table, c'est au fond que en étudiant certains types de projets, on voit la complexité du système qui se mettait en place. C'est-à-dire aussi bien quelqu'un comme Dollfuss, qui était plutôt un érudit, qui était un grand entrepreneur du textile du Nord, était capable, avec des collections et avec un fils qui était orientalisant, de promouvoir avec Émile Muller un ingénieur, un habitat tout à fait spécifique. Donc ça, c'est un cas qui rentre en fait dans l'histoire plus globale, mais qui permet en même temps de réinterroger des mécanismes qui sont beaucoup plus institutionnels et qui ont permis, effectivement, quand on travaille un peu auprès sur des projets d'école qui étaient donnés aux élèves de l'époque en France, on leur apprenait, on leur donnait comme sujet de concours, Baltard donnait comme sujet de concours un projet pour un palais du gouverneur en Algérie. Donc si vous voulez, ça permet de comprendre en fait d'autres réseaux qui ont introduit précisément des modèles sur lesquels on peut s'interroger actuellement.
Youssef Kanoun.
Oui, alors, pour nous, historiens de l'architecture et l'architecte algérien, ces bâtiments sont extrêmement importants. Parce qu'il faudra retracer leur genèse, évidemment. Il faudra trouver les sources de pensée qui ont produit ces bâtiments-là. C'est pour ça qu'ils sont importants. Alors, s'agit-il d'un courant très très fort qui a dominé à la fin du 19e siècle à Alger? S'agit-il de pastiche ou bien s'agit-il d'une dot? Parce que, souvenons-vous bien de ce qui s'est passé à cette époque-là, en 1830 et en 1890, la vieille ville est détruite complètement. Mmh. La vieille ville est complètement détruite. La Bas-Kasbah, la Djinina, ça veut dire là où existe le pouvoir central, elle va disparaître. Il y aura des centaines de monuments qui vont disparaître et les autres qui vont résister ne pourront résister que grâce à la sensibilité d'un certain nombre aussi de Français qui étaient au niveau du pouvoir et qui ont milité, des militaires parmi eux. Alors, ces questions, évidemment, elles restent... Il n'y a pas un débat qui...
Vous voulez dire qu'on est au début d'une réflexion, d'un travail sur ces questions-là pour pouvoir justement démêler tous ces écheveaux de fin de siècle, début de siècle, qui est extrêmement important pour la...
Absolument, parce qu'en fait, le discours de maintenant dit les gens qui nous interpellent, qui interpellent les architectes en face de la laideur des paysages urbains algériens, disent, regardez, ce qu'on a construit au 19e siècle, on est tout à fait incapable de le construire actuellement, on a réinterprété, on a réutilisé, on a réemployé un certain nombre d'éléments linguistiques qui appartiennent à l'architecture locale. Alors, ces questions de mode, ces questions de dot, est-ce qu'on a détruit, donc on remet en place un certain nombre
d'édifices, une sorte de contrepartie, quoi.
Un certain nombre de contreparties. Moi, j'ai tendance à croire, au vu des édifices qui sont, parce qu'en fait, c'est limité à quelques architectes, la réutilisation du néo-mauresque, les architectes qui ont construit sur cela, il y a petit... Il va construire
beaucoup de choses, une médersa, la préfecture, la siège de la dépêche, etc.
Mais qui va construire aussi le palais consulaire. Oui. Donc lui, c'est un homme à tout faire, il peut tout faire. Il va construire l'immeuble qui est à l'avenue Pasteur. Donc il va y avoir des architectes qui vont être employés à tout. Alors, mais moi, la question qui m'intéresse en tant qu'historien de l'architecture, qu'est-ce qui se passe en Europe à cette époque sur le plan de l'histoire de l'architecture? Nous sommes en plein éclectisme, 1830, 1890. Alors, la grande pensée, qu'est-ce qui se passe, par exemple, pour l'Opéra Garnier à Paris? Il va y avoir tout un habillage, mais la structure va être complètement métallique. C'est exactement la même chose, ce qui va se passer pour la grande poste. L'habillage est un habillage traditionnel. La structure, elle est complètement moderne, elle est complètement métallique. Alors, nous sommes dans ce débat-là.
Une sorte de continuité, vous voulez dire, entre le débat européen et le débat qui se déroule à ce moment-là, comme on pourra le voir d'ailleurs en 1930 ou après, avec l'architecture moderne.
Absolument. À la différence près que les courants architecturaux qui naissent en Europe arrivent avec beaucoup plus de maturité à Alger, parce qu'ils arrivent en retard, effectivement. Mmh. Voilà.
Chérif Hadjid.
Oui, moi, ce qui m'intéresse, c'est en fait de parler en termes de rupture-continuité. Et puis, en termes, parmi tous les axes que vous avez tracés, il y a des pistes énormes de recherche. C'est en fait, on se rend compte à un moment donné qu'on a consommé la ville en la détruisant, la retransformant, etc. On a consommé la ville en arrivant dans le mouvement de l'histoire. Et à un moment, il faut produire. produire, donc produire on va consommer neuf, un façon. Peu de l'exotisme, de l'orientalisme, enfin ce qu'on peut, tout ce qu'on veut dire. Et ça me renvoie à une phrase extraordinaire que je trouve de Heidegger quand il dit « habiter, construire après ». C'est-à-dire qu'à un moment, on va essayer de construire. Et là, il y a un peu les interactions et ce double mouvement de rupture et de continuité, de prendre, parce que toutes les architectures sont des accumulations, en quelque sorte.
Cassim Arour. On a oublié quand même un point important, c'est que ce mouvement naît avec la période civile, hein, avec une administration civile qui s'installe. Donc c'est au niveau des responsabilités, donc c'est une autre façon de voir les choses. Et par exemple, le boulevard Khmisti, la Ferrière.
J'ai hein, toujours dit non, tout au long du reportage, boulevard
il a quand même son importance dans le sens où on a détruit les remparts.
Ouais.
C'est fini, l'Algérie est pacifiée. Donc on va construire quelque chose, on va construire un modèle, un archétype, et c'est pour ça qu'il est pris comme modèle de référence.
Et comme modèle central.
Et tous les bâtiments qui sont le long de ce boulevard sont des modèles extraordinaires dans le sens où, et j'aimerais bien poser, disons, ce sont des axes de recherche, parce qu'on m'a dit un jour, on m'a dit que tous les architectes qui avaient intervenu français qui avaient intervenu en Algérie avaient tellement de facilité qu'ils ont produit les modèles d'archétypes auxquels ils rêvaient. Et là, on a un exemple fantastique avec La Poste, mais on n'a pas oublié, il ne faut pas oublier celui de La Dépêche Quotidienne, parce que c'était l'instrument justement de Jonard.
Tout près, ouais.
Non, c'était l'instrument de Jonard pour divulguer, sensibiliser les gens. Il y a eu énormément d'articles de La Dépêche Quotidienne qui, en faveur de cette architecture, parce que il y avait beaucoup de personnes qui étaient
réticentes
par rapport à ça, particulièrement la bourgeoisie au pouvoir colonial.
Chef Hadji, puis l'arbitre chez Boudin.
Je vais monopoliser la parole. C'est juste pour dire que, en fait, il faut replacer dans le contexte. Voilà. On a fêté le centenaire avec le quartier
la
Marine.
Voilà.
Et quelque chose émerge, quelque chose de nouveau, quelque chose d'important en termes symboliques. Mmh. Parce qu'on est dans la période civile. De l'embourgeoisement, voilà. Et là, par la construction,
la,
on va signifier quelque chose.
Et de la richesse vinicole en particulier, oui. qui se développe.
On va signifier quelque chose socialement. Voilà. C'est-à-dire, on est proche, même en termes architecturaux.
On est dans la représentation du pouvoir quotidien des bourgeois algérois de l'époque, l'herbier Cheboudène.
Merci. Juste pour sortir un petit peu de ce grand cadre de tracé, particulièrement des projets, d'architectes à la recherche d'espace pour en fait réaliser plein de fantasmes au sens technique, s'entend, et au sens artistique. Moi, à chaque fois que j'arrive à cette période-là, parce que j'ai travaillé quand même sur pas mal de périodes historiques de la ville d'Alger, quand j'arrive là, je me dis, par exemple, les années 30, c'est Alger en débat, c'est la période du centenaire, c'est la période des bilans. Alors, tout à l'heure, Monsieur Kenoun rappelait le sort réservé à la basse Casbah, déjà entre 1830 et 1840. Et moi, je me pose la question, plutôt, même un siècle plus tard, dans toutes ces aspirées, et dans toutes ces inspirations, je me demande, c'est toujours le cas dans mon interrogation, comment se fait-il qu'il n'a pas été pris en considération le système est d'architecture comme patrimoine et comme épaisseur d'histoire et de culture, l'espace Casbah.
Eh oui.
Que ce soit pour les architectes.
Parce que tout ça, c'est effectivement par rapport à l'espace Casbah, c'est un déplacement régulier qui fait que la ville, d'une certaine façon, s'éloigne de son centre originel. On s'éloigne petit à petit. Vous avez parlé du quartier de la Marine, puis maintenant, donc le boulevard La Ferrière, la Grande Poste.
Ce que je veux dire par là, si vous voulez, c'est qu'on est loin de la logique d'hôte. C'est pas l'opération tiroir. Hein. Les projets proposés, les auteurs de ces projets-là, le sens dans le prolongement des projets au sens de développement spatial s'éloigne de plus en plus
du centre,
du centre qui était la ville, Casbah, et encore, j'allais dire, et même de la place du gouvernement qui à l'époque s'appelait aussi d'un côté place du gouvernement, par les autres place du cheval.
Oui, parce que c'était là où il y avait la statue du duc d'Orléans.
Non, pas seulement cela. Pour certains, c'était le système colonial et place d'expression d'un dynamisme économique et de réussite extraordinaire. N'oublions pas que nous sommes bien loin de 1881, etc. Mais de l'autre côté, vous aviez certains écrits que j'ai retrouvés et qui vous disent sur cette place, bien des Arabes viennent exposer leurs guenilles au soleil. Vous imaginez qu'on est loin de ces grands projets, Kaspa, enfin, disons, des grandes préoccupations de la société qui était plutôt victime de ces systèmes qu'actrice.
Merci, on fait une petite pause, on se retrouve tout de suite.
بنا كي نروح نزورو بلادنا شحال دوا تعجبنا استنانا لدم دم 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 نمشي ونجيب ونرجع هنا بلادنا شحال تعجبنا ما نكدو نهيشو فيها حنا ولاد الغربة وين بحال فارق بينا
par la famille Seba. Nous continuons donc dans le laboratoire de la Fabrique de l'Histoire à traiter d'Alger, donc dans une émission que nous avons enregistrée à Alger dans les studios de la Radio Nationale Algérienne. Donc, et je voudrais recommencer cette deuxième partie après avoir évoqué ce quartier de la Grande Poste et cette époque dont on peut discuter du terme, mais cette époque de l'architecture néo-mauresque du début du XXe siècle. Voilà ce qu'on trouve dans un livre de 1949. Ainsi, les rues offrent-elles aux promeneurs une rétrospective de la mode et du goût en architecture? Pendant près d'un siècle, les architectes n'ont eu aucune intention, parce qu'ils n'en ont même pas eu l'idée de faire une différence entre le milieu et le climat en France et en Algérie, et de s'en inspirer pour dégager des lignes et des formes appropriées. À l'uniformité monotone du style Louis-Philippe ont succédé les immeubles Second Empire, ornés de sculptures, de niches pour statues en série, de consoles et de corniches, puis les maisons cossues et solides de la Troisième République. Au commencement de ce siècle, il y eut une vogue du néo-mauresque qui s'affirma dans certaines villas des environs et des édifices comme la Médersa, la Grande Poste, l'ancien hôtel de la Dépêche. Mais l'intérieur a été construit pour les usages de l'Occident et le mauresque réduit à l'ornementation des façades. C'est le camouflage oriental de constructions européennes. Il aura fallu près d'un siècle pour qu'à Alger, l'architecture devienne méditerranéenne. Aux environs de 1930, apparaissent les grandes lignes sobres. On s'efforce d'adapter les immeubles au soleil et à la lumière du pays, tandis que le décor mauresque se retrouve dans les détails de la décoration. Alors, ce n'est pas un ouvrage d'architecture,
oui, Gabriel Esquer.
Bravo, Gabriel Esquer, Alger et sa région. Guide Artaud, site et monument Alger. J'ai retrouvé ça à la bibliothèque de la maison de Radio France avant de venir ici même. Mais voilà, c'est assez juste, en tout compte fait, ce que dit Gabriel Esquer à ce moment-là sur cette évolution. Il réduit en un paragraphe cette histoire comme ça de l'architecture, avec aussi
parce que entre cette période du néo-mauresque et aujourd'hui, il y a eu, avant de revenir à la question de l'indépendance, il y a eu la période des années 30, avec aussi, on le sent, assez proche du mouvement moderne qu'il a l'air de défendre énormément. Donc toute cette époque où, eh bien, on abandonne tout ce qui peut apparaître aujourd'hui comme des décorations assez superfétatoires pour faire de d'Alger une sorte de laboratoire de la modernité architecturale. Youssef Kanouni a eu ça.
Oui. Absolument. Donc, nous avons eu les prémices de l'architecture moderne pratiquement en même temps que l'Europe occidentale.
Donc, moins de décalage que
beaucoup moins de décalage d'avant. Parce que le premier grand projet qui s'inscrit dans le mouvement moderne, celui du palais du gouvernement. Donc, c'était avec Guillochin, mais Guillochin qui va être très ami avec les Perret qui vont être des constructeurs. Ils vont faire énormément de projets sur Alger. Donc, Alger va posséder ses premiers bâtiments tout à fait modernes dès les années 30. Ça veut dire que nous sommes après la Première Guerre mondiale, juste à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, n'oublions pas qu'au milieu des années 30, le Courbus va choisir Alger pour mettre en place...
Il va faire un séjour de 8 heures, dit-on, à Gardaïa pour pouvoir y découvrir les secrets de la lumière du désert.
Non seulement à Gardaïa, mais à la Médina d'Alger. La Médina d'Alger où ils disent, nous avons l'impression que les Arabes étaient des barbares qui habitaient dans des cités indigènes et des maisons indigènes. C'est tout à fait le contraire. Ils habitent dans des maisons très ensoleillées où c'est là aussi il faudra le vérifier. C'est là où l'idée du modulor lui passe par la tête. Donc c'est en visitant il va visiter une maison close, évidemment la Casbah, parce que les gens ne vont pas laisser rentrer. On va lui piquer son portefeuille au niveau de la Médina. Et donc le Courbus va choisir Alger, avec d'autres villes évidemment, Barcelone, et il va s'efforcer de construire des projets qui sont complètement révolutionnaires et fous à l'époque. Ça veut dire qu'il va faire une autostrade qui va traverser Alger, qui va contourner la Médina d'Alger avec un quartier au niveau de Fort-l'Empereur El-Biar. Et là, c'est ses disciples, et c'est ses disciples premièrement qui vont le dissuader de ne pas faire ses projets pour Alger, qui ont compris Alger, comme vous le dites tout à l'heure, qu'à Alger, qu'il faut faire une architecture tout à fait moderne, austère, mais calme, sereine, qui profite du soleil, de l'air et de la vie de la baie.
Souria Kassam.
Moi, je m'excuse, je reviens un petit peu en arrière. C'est juste par rapport à la construction d'une architecture européenne habillé à un certain moment d'oriental. Bon, disons donc un plaquage d'une architecture, donc réellement une exportation. Bon, effectivement, ça a été le cas. Mais ce qu'on peut quand même, ce qu'il faudrait souligner, c'est la spécificité topographique de la ville d'Alger, qui a donc donné naissance à des spécimens d'édifices magnifiques et particuliers, justement parce que quand vous vous promenez par exemple dans Alger, vous êtes rendu compte, enfin, vous avez dû vous rendre compte de l'existence de beaucoup d'escaliers,
les ravins,
et donc les différents ravins, et qui ont fait qu'en fait l'architecture a dû s'adapter à ça, et donnant une image spécifique à la ville d'Alger, c'est-à-dire bien bon là par exemple si on compare un petit peu à Casablanca, bon où le disons qui a été créé aussi par les Français, mais bon un peu plus tard, donc c'est beaucoup plus l'art déco qu'on retrouve, mais disons qu'il peut qui a gardé un caractère qu'on peut retrouver Alger, non, sa topographie a obligé donc les architectes à travailler avec ça, donnant des images plus belles par rapport
et nouvelles
parce qu'ils ont dû trouver des petites solutions et des petites astuces particulières au
pour
lieu
pour s'adapter
donc
au
pour
lieu,
revenir
au
terrain, revenir un petit peu à ce lieu
ce que Christian Norberchou
s'appelle arriver à ça, justement à ce lieu d'Alger qui reste, donc même Alger on a enclenché un petit
vous
peu
avez rajouté,
par rapport
parce que autant que je sache Norberchou c'est plutôt Prague, Venise et deux ou trois autres endroits, il compte déjà
on travaille avec même si lui
Alger,
n'avait pas nous on travaille tout à fait et on se retrouve dans son discours et pour arriver même à l'architecture coloniale qui en fait bon parce que comme les choses ont évolué bon l'architecture moderne bien entendu donc qui s'est faite vers les années donc à partir des années 30 et donc bon là où toute la partie plate, plus ou moins plate, de la ville d'Alger était plus ou moins occupée. Oui. Donc, toute cette architecture qu'on retrouve un peu plus en hauteur, et là où ils se sont un peu retrouvés confrontés encore plus à cette topographie très raide. Donc, on a le fameux, le fameux immeuble, l'aérohabitat.
Donc, qui a été aussi fait par un disciple de Le Corbusier.
Voilà, un disciple reprenant ses principes avec la galerie au 10e niveau. Mais quand on le voit donc implanté, d'ailleurs, il y a eu plusieurs ébauches, plusieurs projets. Donc, on voit premièrement son orientation vers la mer, parce qu'il ne faut pas, depuis tout à l'heure, on parle d'Alger en oubliant un petit peu la mer qui ne va pas sans.
Partout présente.
Voilà, partout présente. Donc, il y a orienté. Et donc, qui s'est mis perpendiculairement aux courbes de niveau, donnant cette particularité à ce projet.
Cassimaro.
Justement, Mme Cassab vient d'insister sur le fait, de cette qualité de la ville d'Alger. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, la ville était encore dessinée. Comparativement à maintenant,
où l'auto-organisation prend beaucoup de place.
La ville était dessinée, c'est-à-dire que la ville était considérée comme une architecture et qu'il fallait déterminer ses formes et ses directions de croissance, et du point de vue formel. Donc les architectes intervenaient dans un programme de réalisation et il y avait une idéologie dominante dans la production de l'architecture et de la ville. Ça, c'est important qu'il faut souligner. C'est pour ça qu'on retrouve justement ces fameuses directions de la partie la plus haute vers la mer, que l'on retrouve systématiquement, qui reprennent, comme vous avez dit tout à l'heure, qui insistent sur le ravinement, mais qui retransforment, qui utilisent ces ravinements en tant que structure de circulation et surtout de vue.
Eh oui. Alors, peut-être on passe un peu rapidement sur cette période moderne de l'architecture, mais je voudrais en arriver aux abords de la guerre d'indépendance de 1962 et surtout à la façon dont cette ville qu'on décrit depuis tout à l'heure, c'était tout de même une ville pour les Européens où, au bout d'un certain temps, malgré l'enrichissement de certains Algérois de souche, ils n'avaient pas accès à cette ville. Cette ville était une ville relativement fermée, telle qu'on l'a décrit, que ça soit le boulevard, la Ferrière, la Grande Poste, ou même les extensions postérieures. Tout cela était une ville relativement fermée. Alors, on va arriver à ce moment très particulier où on va avoir transfusion d'une population, départ d'une population et transfusion d'une autre population. Comment se passent ces abords de 1954 à 1962, quels sont les quartiers, la façon dont s'agencent ces quartiers, avec qui à l'intérieur, avant que ne partent tous les gens qu'on a appelés ensuite les pieds noirs, Youssef Kanoun.
Entre 1954, ce qu'il ne faudrait pas oublier, c'est qu'on en construit beaucoup encore.
Oui, parce qu'il y a toute cette tentative de rattraper un retard, en particulier architectural, avec des architectures qui sont peut-être de moins bonne qualité formelle que les architectures du mouvement moderne dont on parlait d'avant-guerre, mais en même temps pour loger des gens parce qu'il y avait un grave problème de logement dans Alger.
Je m'excuse juste un mot. Hein. Il ne faut pas oublier que 54 correspond au fait que la population algérienne d'origine est plus importante que la population européenne. C'est très très important. À ce moment-là, tout se base là-dessus. Et c'est justement la guerre d'indépendance.
Alors, je disais, on construit beaucoup, évidemment, entre 54 et 62, des très très grands projets, l'opération de logement du champ de manœuvre 1000 logements, donc Dial Marsol, Dial Saada, etc., etc. Donc il va y avoir une dynamique dans le secteur du bâtiment qui va être tout à fait extraordinaire. C'est pour récupérer le retard perdu, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mais moi je voudrais souligner, parce que cette émission va être certainement écoutée par beaucoup d'Algériens qui sont architectes en France ou en Algérie, la deuxième grande, pas énigme en tous les cas, mais la deuxième chose.
Vous avez déjà posé une énigme.
Très méconnue par les architectes algériens, c'est la contribution des architectes algérois dans le mouvement moderne, qui va être extrêmement forte. Emery va jouer un rôle central dans les SIAM. Donc il va y avoir un courant extrêmement fort en Algérie, représenté par les architectes qui sont très jaloux de leur ville, qui se considèrent comme étant des Algériens, qui vont refuser l'accès au Corbusier pour ces projets tout à fait ambitieux. Et ils vont défendre la ville à leur manière. Donc les Tuilières, les Emery, les Bourlier, Laloué, Ferrer, etc., vont être des architectes tout à fait extraordinaires. Alors, la ville, moi, en compulsant un certain nombre d'archives, par exemple sur le quartier de l'ancienne préfecture, qui est le quartier de la Marine, Il y a énormément d'Algériens qui vivaient, donc c'était un quartier cosmopolite, donc qui était constitué d'Arabes, de Maltais, de Juifs, d'Européens, etc., d'Espagnols, d'Italiens.
Ouais. Donc l'idée d'une ville qui serait une sorte de bastion fermé, qui ne serait pas une ville du mélange, c'est une idée fausse selon vous, sur le quartier
de la Marine et de Babylone, elle est complètement fausse. Voilà. Alors nous avons, en discutant avec nos aînés sur le quartier d'Isly, etc., moi quand je discute avec des gens qui sont un peu plus âgés que moi, et qui connaissent un peu la ville entre 54 et 62, les gens partaient jusqu'au quartier d'Isly, ça veut dire jusqu'au quartier de la Grande Poste, faire leurs courses au niveau des Galeries de France, etc. Donc c'était pas tous les Algériens évidemment mais les gens qui vivaient dans la Médina d'Alger n'étaient pas, à mon sens, et j'espère ne pas dire de bêtises là-dessus, exclus de la ville. C'était pas une ville qui était, il y avait pas un apartheid social dans cette ville.
Même s'il y avait peut-être des frontières invisibles qu'on ne peut pas voir. L'armée Jboudène veut prendre la parole. L'armée Jboudène.
Merci. Alors là, je voudrais réagir très très vite pour qu'on n'oublie pas ce qui vient d'être dit. C'est juste un peu pour compléter, puis en même temps pour dire, il y avait un urbanisme d'exclusion. Il n'y avait pas de frontières de type matériel qui faisait séparation entre les voilà. Mais on disait aussi, pour ceux qui en analysaient les comportements, j'allais dire, et certains séismes sociologiques qui allaient avoir lieu plus tard, ceux qui utilisaient les comportements des deux types de sociétés disaient qu'à Alger, les gens se croisaient mais ne se rencontraient jamais à la fin, tellement les conflits ou les potentiels de conflits étaient grands.
Je très vite à cela. Alors, parce qu'il faut être... évidemment, il y avait des frontières invisibles, il y avait une architecture, un urbanisme d'exclusion, c'est tout à fait vrai, mais on peut dire la même chose de la Médina d'Alger. Combien de Français rentraient à la Médina d'Alger? Le problème était qu'il y avait deux villes pour un même espace, c'était ça le problème central. Absolument. Il y avait deux villes, on ne savait pas construire la continuité de la ville. Voilà.
Cheikh Hadjidj, Souria Kassab ensuite.
Tout ce qu'a écrit Jacques Berck, deux villes, deux sociétés, etc., et comment on se faisait l'articulation. Bon, je passe juste pour dire qu'il y avait quand même de la ségrégation. Il n'y a qu'à revoir les données du recensement de 54, ce qu'a écrit des cloîtres, 30% des Algériens habitaient dans les bidonvilles. En 54.
Oui, parce qu'on n'a pas parlé d'un phénomène extrêmement important, qui est le phénomène des bidonvilles.
C'était un rattrapage au sens économique, mais c'était aussi parce qu'on était dans une certaine phase politique, sociale, etc., où quand on prend Dial Mahsoul, on fait deux constructions de cités, mais une cité simple confort et l'autre moyen confort. Donc il y a quand même une ségrégation, même si les gens se trouvent dans la cité. Et le problème, c'est qu'il y avait les gens qui étaient dans la cité et d'autres qui étaient dans la ville.
Oui, d'accord.
Oui, je continue dans le même sens, justement par rapport à cet urbanisme d'exclusion et au fameux séisme dont a parlé professeur Hichboudène, qu'il voyait venir, et d'où le fameux plan de Constantine de 58, donc qui a...
volonté de rattraper
en produisant un habitat social, entre guillemets, puisqu'on connaît un petit peu les opérations de Jinan Hassan, où c'était réellement, bien que l'architecte était de renommée quand même, c'était Simone, mais bon, d'un point de vue budget qui était alloué à toutes ces opérations, les fameuses cités de recasement, il y en a eu un petit peu partout, même quand il y avait des opérations un petit peu mixtes comme Dial Mahsour ou bien les Anasser également, bon, il y avait une architecture quand même assez particulière, hein, avec des grandes coursives par lesquelles on pouvait quand même vérifier les va-et-vient, donc je crois que, bon, là c'est clair, bon, et c'est un peu tout le problème, en fait, là je pourrais revenir même à ces... Il y avait même des affiches, les fameuses affiches de propagande, où on voyait toujours donc le colon à côté d'un arabe, théoriquement en bonne entente. Mais bon, c'est-à-dire qu'il y avait réellement une volonté de montrer les choses mais en fait, il y avait deux entités qui se côtoyaient, mais qui ne vivaient pas ensemble.
Alors justement, et là on est au cœur même de cette dernière partie de la fabrique de l'histoire, sur la façon dont s'est passée la transition, le transvasement, je ne sais pas comment on pourrait dire. Dans ces actes de colloque qui seront bientôt publiés, du colloque dont on parlait au début de cette fabrique de l'histoire, donc de l'année dernière à l'école d'architecture d'Alger, autour d'Alger, un article dit qu'avant 54, seul un Algérien sur cinq avait une expérience de la vie citadine. Et donc, alors je ne sais pas si c'est un article de vos collègues, je ne sais pas si c'est vrai, je ne veux pas mettre la panique à l'intérieur de ceux qui ont organisé ce colloque, mais enfin en gros, il explique que eh bien, en 62, le fait que tout un tas d'immeubles, en particulier dans la ville européenne, se sont trouvés vides, a conduit des gens à découvrir en même temps que des nouveaux logements, avec la crise du logement, à découvrir la ville, c'est-à-dire à se la réapproprier. Et je voudrais qu'on soit sur cette dernière partie de la fabrique de l'histoire, sur ce thème-là, c'est-à-dire comment cette ville, créée par des Européens, pour des Européens essentiellement, ou des Algérois donc d'origine européenne, comment cette ville a-t-elle ensuite passé le cap de l'indépendance, et puis également comment les symboles qui étaient inscrits un peu partout dans la ville, dans les bâtiments publics, dans toute cette architecture coloniale néo-mauresque dont on parlait depuis le début de la fabrique de l'histoire, comment tout cela a perduré ensuite, a été réutilisé, nidifié, transformé. Youssef Kanoun d'abord, et puis ensuite tout le monde.
Je ne peux pas confirmer le chiffre de 1 sur 5, mais en tous les cas, ça nous renvoie à des concepts différents de la ville, évidemment. Quand on parle de Médina, quand on parle de Casbah, premièrement, on ne parle pas de Casbah, parce que Casbah est la forteresse, on parle de Médina. Médina qui signifie littéralement la ville. Ça veut dire que les Algériens vivaient dans la ville. Mais moi, je ne suis pas en train de faire ici l'apologie du colonialisme français, c'est tout à fait clair. Mais sinon, il n'y aurait pas eu la guerre si les Algériens vivaient dans les mêmes conditions que les Français. Mais en tous les cas, on ne peut pas. Moi, je n'ai pas souvenir, ni dans des écrits, que la ville était fermée, que l'espace de la ville était fermé aux Algériens, évidemment. Donc, il y avait une ségrégation, il y avait un urbanisme qui était différent. Il y avait des Algériens qui habitaient dans les cités. Maintenant, sur cet aspect de la ville, des Algériens qui ne connaissaient pas la ville, moi je trouve que la tradition urbaine précoloniale existe très fortement en Algérie, à travers toute cette armature de ville du Moyen-Âge qui existe en Algérie. Je ne sais pas si, et Cassie va le confirmer, j'espère, tout à l'heure, je ne sais pas si les gens de Timimoun, on peut ne pas les appeler citadins, bien qu'ils habitent dans le fin fond du désert, donc dans des espaces oasiens créés artificiellement. Comment les Algériens se sont réappropriés la ville, évidemment. Donc, des quartiers européens qui vont être vidés très brutalement en 1962.
En
quelques semaines. Il va y avoir une occupation de toutes ces maisons-là. Alors, occupation pour moi, architecte, je le dis de la manière la plus sereine, elle est salutaire, parce qu'elle n'a pas créé de ségrégation encore entre les Algériens. La crise du logement et le débarquement des Algériens en 62, la occupation de l'espace qu'ont laissé les Français, en fait que les Algériens, toutes classes confondues, ont occupé des quartiers différents de la ville.
Au point d'ailleurs que lorsqu'on n'était pas content d'un appartement, parce qu'il était donc vidé, effectivement, les gens étaient partis, on pouvait se dire, on va en changer, parce que d'une certaine façon, il n'y avait d'abord pas de législation, rien du tout, et il fallait qu'on aille d'un endroit sur l'autre. Je ne sais pas. Alors que,
Il y a effectivement énormément de choses à dire.
Allons-y.
Et personnellement, j'ai écrit dessus, j'ai publié des trucs, et même des petits bouquins. Comme ça. Or, il se trouve que cela renvoie, si vous le voulez bien, à des petits faits ou des événements, mais qui sont très graves, et qui s'appellent les ruptures historiques. Et la chose, ce type d'événement, eut lieu en 1830, lors de la signature de capitulation. Il y a eu la fin d'un monde. C'était la fin de l'Alger de l'époque ottomane. Arrive cette période de l'indépendance de l'Algérie. Effectivement, c'était la fin de l'empire colonial français. Or, il se trouve que l'Algérie est le premier pays à être colonisé, effectivement, au pays d'Afrique du Nord. Il a été le dernier
à être décolonisé.
pas abandonné.
Abandonné.
On n'abandonne jamais un aussi beau pays. Non. Le problème, c'est que plus tard, il se pose des interrogations sur les conditions
très spécifiques avec lesquelles l'Algérie accède à l'indépendance comparativement à celle du Maroc et de la Tunisie.
Alors, oui,
en Algérie, il a fallu qu'on fasse la guerre, excusez-moi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que au cours de la guerre 54-62, une des rares villes qui s'appelle Alger est la seule à avoir effectivement contribué en tant que ville, en tant qu'espace, en tant que symbole de capitale à la lutte de libération nationale, d'où la fameuse bataille d'Alger. On ne peut pas évoquer d'autres faits historiques de la même qualité et du même danger encouru pour d'autres villes. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est à partir de là que, plus tard, lorsqu'il y aura donc cette histoire d'appropriation et de réappropriation, dans les choses que moi j'écris, je m'excuse, je parle de ces choses-là.
Ben, vous êtes là pour
moi.
Ça.
Non, non, parce que tout simplement, je parle de l'héritage d'une ville qui est un immense héritage. Hériter une œuvre urbaine, une très belle œuvre urbaine. C'est une œuvre coloniale, qu'on le veuille ou non. Mais aussi, on fait de l'héritage sans mode d'emploi.
Ah oui.
Et là,
c'est-à-dire, on a l'outil, mais on ne sait pas forcément s'en servir.
Ah oui, on a l'outil, on ne sait pas comment forcément les choses se passent, et puis on peut développer plus tard.
Oui, hein. Oui, Chérif Hadjid.
Je reviens à ce qu'écrit Henri Sanson, déjà, dès les premières années de l'indépendance, prise du pouvoir, prise de la ville. Oui. Effectivement, oui, il y a prise de la ville, mais par qui? Il y a un classement social. Je crois qu'il ne faut pas l'oublier.
Oui, vous êtes un peu en contradiction avec ce qui a été dit auparavant. Vous pensez qu'il y a un classement social dans
cette... Il y a un classement social. Il fallait être à Alger, il fallait être dans le réseau de relations sociales qui permettait cette entrée. Ceux qui avaient le capital économique ont eu des transactions déjà. Il y a eu le retour des réfugiés, les transactions, et on attendra jusqu'à 66 hein, pour voir comment les gens bougeaient d'un quartier à un autre, et on verra.
Jusqu'à trouver une sorte d'équilibre, non ?
Ce n'est pas les quartiers populaires qui ont été vers les quartiers européens.
C'est-à-dire que, par exemple, les gens de la Casbah descendent à Bab El Oued, par exemple, dit-on, quartier abandonné, mais néanmoins qui n'est pas un quartier extrêmement riche, au contraire. Ils descendent à Bab El Oued, mais ils ne vont pas s'installer dans les belles villas qui sont aux alentours.
C'est-à-dire que même s'il y a eu un peu ce semblant d'anarchie, en 67, il y a eu quand même tout un recensement sur les biens vacants et il fallait être doté soit financièrement, soit d'un capital social, soit d'un capital ressources matérielles ou immatérielles pour pouvoir accéder. Et en fait, ce qu'on a appelé plus tard les biens vacants, c'était le butin de guerre, mais l'État a développé en 81 la loi sur la vente de ces biens vacants. C'était quand même une stratégie patrimoniale de l'État au profit de certaines catégories
Merci
sociales.
L'Arbier Chebouden.
Juste pour compléter ce que dit Mme Hakid, je l'entends avec plaisir parce que c'est ce que nous qualifions aussi de transfert non marchand de biens. Je disais que c'est un héritage sans mode d'emploi. Effectivement, parce que il y a quand même de véritables stages qui demandent bien, bien des années pour accéder aux pratiques urbaines, aux pratiques citadines pour la majorité de la population d'Alger à cette époque-là. Tout le monde n'était pas, jusqu'à présent, Mustapha Al-Sharif, qui est un de nos plus grands sociologues, nous qualifie tous ensemble de rurbains, n'est-ce pas? Alors, juste pour revenir à la conclusion à laquelle est arrivée Madame Hadjid, c'est qu'il se trouve que c'est effectivement très vite que l'on s'est rendu compte qu'il fallait quand même opérer ou imposer un certain nombre de règles qui fassent qu'il y ait une distribution moins anarchique des personnes vers des quartiers en fonction de leur capital économique ou de leur capital social, afin que... Il y a eu des régularisations, bien sûr, parfois manu militari.
Sylviane Leprin.
Oui, moi, j'ai pas la compétence de tous mes collègues algériens sur l'histoire de la ville contemporaine, évidemment. Mais en même temps, en les écoutant, la question qui me paraît importante, c'est est-ce qu'il est possible de créer une nouvelle urbanité, au fond? Et moi, en quelque sorte, me promenant dans la ville d'Alger depuis maintenant, je viens un peu régulièrement, et aussi par expérience par rapport à d'autres pays, notamment à Dakar, j'observe peut-être de l'extérieur, et peut-être certainement trop de l'extérieur, puisque j'ai pas fait de travail de terrain précisément sur Alger, de ce point de vue-là, mais par comparaison, quelque chose qui s'est instauré et qui, pour un regard extérieur, montre qu'il y a une véritable appropriation.
Et une véritable culture de la ville.
Et une véritable culture de la ville, c'est-à-dire au fond des détails quotidiens, c'est-à-dire des pratiques d'habiter, qui se voient certainement pour moi de l'extérieur, c'est-à-dire c'est-à-dire effectivement les rideaux aux fenêtres, les liens avec le montré caché, enfin des gens qui, hier nous nous promenions dans la ville avec Souria Kassab pour le travail que nous menons ensemble, et effectivement on voit bien qu'il y a de l'appropriation, et qui est une appropriation effectivement qui crée de l'intimité, c'est-à-dire au fond on sent que cette ville progressivement, les habitants ont instauré un rapport quotidien tout à fait pertinent, semble-t-il, et y compris dans une architecture qui, au départ, n'était pas en apparence, qui n'était pas la leur.
Chérif Hadid.
Il est vrai que si on doit parler aujourd'hui des pratiques de l'habiter dans la ville d'Alger, effectivement qu'on est un peu dans une phase, je dirais, d'appropriation, de réappropriation. De réappropriation et de l'histoire. Et de la ville.
Et oui, alors on va peut-être terminer cette dernière partie puisque nous arrivons à 7 minutes de la fin de cette émission, donc sur justement la question de la réappropriation de l'histoire, c'est-à-dire que est-ce qu'aujourd'hui c'est une habitation, on habite cette ville parce qu'il faut habiter sans même se rendre compte de son histoire, ou est-ce que l'épaisseur historique successive de toutes les périodes qui se sont accumulées sur le territoire algérois est prise en compte par les gens qui vivent ici, et en particulier dans, si on prend l'exemple du néo-mauresque ou de ces périodes-là, dans la réappropriation aussi de ces architectures coloniales, de leurs symboles, de la façon dont ils ont été conçus, Narbi Chebboudane.
Bien, effectivement, il y a tout un mouvement de réappropriation. Il n'y a pas de disqualification d'un produit architectural dans la mesure où, d'abord, il sert par ses utilités. Et plus tard, on en fait lecture, on fait un héritage. On ne dira pas de nos jours, en tout cas c'est le discours qui se développe, on ne dira pas l'architecture coloniale, on dira l'architecture de l'époque coloniale. Par contre, on peut dire une maison coloniale dans les pubs de journaux pour le marché immobilier. On commence à développer le fait de l'architecture de l'époque turque et non plus de maison turque. C'est encore des choses. Alors, pour cela, si vous le permettez, je pense qu'il y a effectivement appropriation, qu'il y a réappropriation de tout cet héritage qui, si au départ j'avais dit son mode d'emploi, c'est qu'il se trouve que les gens ont fait de très grands efforts d'intégration citadine, souvent à leur dépens, pour pouvoir se classer et pour pouvoir se classifier dans la ville, parce que c'est les seules armes qui permettent l'organisation sociale et urbaine autonome en vue d'une société urbaine. J'aurais peut-être quelque chose à dire plus tard.
Kassim Mahmoud et puis Tsouria Kassam.
Moi, j'aimerais bien insister sur un fait qu'il faut clarifier tout de suite, justement, parce qu'on considère souvent l'architecture d'Alger comme une architecture d'importation ottomane. C'est une architecture algéroise, locale. Et il faut qu'on le dise, qu'on le redise de telle manière. Mais parce que
vous
là.
Vous travaillé en particulier sur l'architecture de la Casbah pour dire qu'elle est vraiment différente.
Elle est différente. Elle est différente. C'est vrai, bien sûr. Mais les populations algéroises, tout un chacun, quelquefois, pensent justement que c'est une architecture d'origine turque, d'importation. Ouais. Et ça, c'est très grave, parce que là, on voit le niveau de déculturation auquel les Français sont arrivés par rapport à la production architecturale, à la production culturelle algéroise. Et il faut insister là-dessus.
Souria Kassam.
Par rapport donc à l'appropriation justement de cette architecture dite coloniale, je crois qu'il faut un petit peu voir ce qui se produit actuellement. Hein. Bon, c'est vrai, tout à l'heure on disait que c'était peut-être pas très beau, mais si on regarde dans le détail, on peut voir quand même certaines reproductions systématiques de ces modèles-là. Par exemple, bon, même si actuellement, dans les plans d'urbanisme, on prévoit très souvent, sans faire trop attention, une zone qu'on appelle lotissement, donc théoriquement qui devrait recevoir un habitat individuel, le classique, comme on pourrait se l'imaginer, c'est-à-dire la petite maisonnette et le jardin autour. En fait, le surterrain, c'est tout autre chose. On a beaucoup plus un immeuble de rapport. Hein, et là, on a des zones comme ça qui se sont développées à Kouba sur des grands axes où on reproduit, pas à l'identique bien évidemment, ces immeubles de rapport, c'est-à-dire avec un rez-de-chaussée commercial et puis avec 3-4 niveaux au-dessus de logements.
Vous voulez dire que là, donc, ça a été intégré de telle façon que ça devient naturel.
Ça devient naturel. Les balcons Donc ces logements sont extravertis, donc qui ont des ouvertures sur l'extérieur, bien qu'on vient d'en parler. Le rapport au public reste l'intimité, les problèmes d'intimité, donc d'où très souvent donc cette réflexion peut-être spontané des gens, mais même quand même réfléchi, parce qu'ils ne font rien sans rien. Les hauteurs de ce fameux niveau commercial qui est calculé de telle manière à ce qu'on puisse pas justement voir ce qui se passe au niveau du premier.
Youssef Kanoun, puis Monsieur Larmi Chibounen.
Si on regarde sans prétention l'histoire urbaine de l'Algérie, premier moment, la médina d'Alger. Deuxième grand moment de développement de cette ville, la ville coloniale, avec ses modèles, ses rues, ses places. Troisième modèle, la ville post-indépendance. Dans la ville post-indépendance, y a-t-il eu ville qui a été créée après l'indépendance? Nous avons assisté à un premier moment, la naissance de la périphérie, parce qu'il y a des cadres qu'il fallait loger, c'est Babzouar, c'est Garidi, etc. Les unes. Deuxième moment de développement de la ville post-indépendance, les lotissements, à partir de 1980. Et qu'est-ce qui se produit dans ce lotissement? Il y a des choses intéressantes qui se produisent dans ces lotissements de 1980. Mais pour se réapproprier l'histoire et pour s'attaquer à toute cette épaisseur historique de l'histoire urbaine d'Alger, il faudrait que les spécialistes, que les pouvoirs politiques soient animés de la volonté de connaître cette histoire urbaine de l'Alger. Ça, c'est fondamental. On ne peut pas se réapproprier l'histoire s'il n'y a pas cette volonté.
Vous voulez dire qu'il ne faut pas faire une réappropriation anarchique de cette histoire en prenant certains mots sans savoir la totalité.
On ne peut pas parler de réappropriation de l'histoire d'une manière formelle en s'attaquant à dire que les Algériens intègrent le balcon maintenant, intègrent un certain nombre de choses. Quelles sont les valeurs? Quelles sont les valeurs de l'architecture algérienne? Quelles sont les valeurs de l'histoire urbaine algérienne? Ce débat-là n'étant pas posé par les spécialistes d'abord, par les universités, par les structures qui sont concernées par cela, le pouvoir politique, lui, est animé par la volonté de l'importation de modèles modernes pour donner l'illusion de la modernité, évidemment. C'est ce qui s'est passé en 70 et maintenant. On fait que nous sommes dans une espèce d'anarchie urbaine et de construction non finie, non terminée, et d'une laideur. Même si les choses les plus intéressantes se passent dans le lotissement, on ne les voit pas pour l'instant.
Monsieur Chibouden, et puis Chérifa Hadjidj, avant que Madame Kassab termine.
Alors, moi, je voulais éventuellement ajouter quelque chose à cette question de réappropriation, dans la mesure où réappropriation d'espace bâti, cadre bâti, mais en même temps il faut penser à la réappropriation de la mémoire, comme vous aviez débuté au cours de cette émission. Mm-hmm. Or il se trouve que là, non seulement parmi les observations que l'on fait avec les anciens habitants d'Alger, n'est-ce pas, que ce soit de la Casbah ou de la Sainte-Eugène, Bolorine actuellement, qui sont de véritables anciens Algérois, mm-hmm. Citadins, est-ce titre, est-ce qualité, n'est-ce pas? Alors, à ce moment-là, nous nous rendons compte que cette réappropriation de la mémoire, ils la font non seulement par rapport à leur espace bâti, à leur pratique, mais en même temps, pour beaucoup, ils la font par rapport à une période passée, parce qu'ils ont un recours à une nostalgie. Et là, comme nous sommes des Méditerranéens, dans cette nostalgie, on se permet de se mettre à la place de l'acteur, de l'Algérois européen de 1930, et non pas dans la place de l'observateur qu'on était, observateur de spectacle qui s'y déroulait et qui faisait d'Alger une ville tout le temps en grande fête. N'est-ce pas? Le recours à cette nostalgie exprime aussi un quotidien de nos jours qui est plutôt sévère, qui est plutôt dur, et donc on est obligé d'avoir recours.
Madame Hadjidj, chérie Hadjidj.
Travaillant un peu sur les pratiques et représentations socio-spatiales des habitants d'Alger, pour moi, je ne pars pas du tout de cet aspect d'anarchie, de réforme. C'est pour moi la meilleure manière de s'approprier, c'est que c'est des usagers, que ça répond à leurs besoins, ça répond à leurs aspirations, et c'est ça le plus important pour moi dans la ville. Donc, je crois que c'est pas du tout une manière anarchique quand on voit comment, quand ils construisent ces rez-de-chaussée commerciaux, Ajaccio, parce qu'ils ont été produits à un moment donné de l'histoire, ces lotissements, pour une couche moyenne qui actuellement est laminée par les programmes d'ajustement structurel. Et pour y arriver, non seulement c'est des fonctions qui rendent service là où l'État ne produit plus de services, et en même temps ça permet aux particuliers de construire et de finir leur construction. Et d'ailleurs on voit à Alger un peu, Kouba c'est l'alimentation, Al-Hamiz en périphérie c'est plutôt électroménager, donc c'est très bien spécifié les marchés.
Touria Kassab, et nous allons terminer.
Par rapport à ça, justement, il y a pas mal de petites recherches qui sont menées. C'est-à-dire, le problème, c'est qu'il n'y a pas ce passage entre l'université et puis, disons, le pouvoir décisionnel, les grands bureaux d'études. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas de recherche, mais il y a beaucoup de recherches dans ce domaine-là, aussi bien faites dans le cadre de diplômes de magistère. Bon, nous, le programme que nous menons avec Bordeaux, ça avait démarré un petit peu dans ce sens. C'est-à-dire tout en essayant de connaître un peu mieux sa ville, mais ce qui est clair, c'est qu'on le fait dans une vision donc future, c'est-à-dire et puis actuelle, c'est-à-dire si on veut connaître ce patrimoine colonial, c'est beaucoup plus pour mieux comprendre ce qu'on produit actuellement.
Remerciements donc au commissariat de l'année de l'Algérie en France, mais également au Centre culturel français, à l'ambassade de France qui nous a facilité le travail, et puis également à nos amis de la radio algérienne, monsieur Farid Toualbi, donc des relations internationales, et les techniciens qui nous ont permis de faire cette émission ici même à Alger, Karine Ben Ismaël, Khaldi Kebaili et Jamel Renaï.
C'était la Nouvelle Fabrique de l'Histoire, le patrimoine architectural et la mémoire coloniale par Emmanuel Laurentin. Réalisation Véronique Lamandour. Première diffusion sur France Culture le 21 avril 2003.